Une manière de réunir vos deux interventions, c'est de se demander si finalement le récit national que tu as fort bien décrit n'empêche pas l'introduction d'une forme de sociologie dans l'histoire scolaire. La sociologie d'ailleurs aussi, au lycée est en voie de disparition puisque la seule matière dans laquelle elle est enseignée c'est les sciences économiques et sociales, et il est clair que dans les programmes scolaires il y a très très peu de sociologie pour plein de raisons, peut-être parce que c'est désenchantant aussi pour des élèves, parce que finalement déconstruire des groupes, déconstruire des entités, tout ça c'est quelque chose qui peut gêner le légendaire, le rêve, le récit, justement tout ce qui anime. Et là, c'est peut-être une lacune qui empêche justement la scolarisation de la question nationale autrement que comme une espèce d'entité abstraite, vague et uniquement que sur des critères dits culturels. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à la salle. Il nous reste 20 minutes de débat, donc la parole est à vous.
Merci. J'ai une question à poser à Gérard Noiriel, excusez-moi, sur la distinction entre la notion de nationalité et de citoyenneté, l'usage, disons, qui en est fait en France par rapport à l'usage qui peut en être fait dans d'autres pays où les termes sont souvent très nettement distingués.
Oui, bien, c'est une question qui nous permet de toucher du doigt la difficulté du sujet, puisque nous sommes nous-mêmes fabriqués par une langue, hein, et on le voit bien sur ces questions-là quand on essaye de traduire. Moi, j'ai l'expérience, quand on a traduit dans la petite collection dont je m'occupe chez Belin, l'ouvrage de Brubaker qui s'appelle « Citoyenneté, nationalité » en France et en Allemagne. On était comme ça, lui il est à Los Angeles, moi à Paris, à s'envoyer des mails, je dirais 15 fois par jour, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Parce que dans un premier temps, le traducteur, qui n'était pas très versé dans toutes ces questions-là, il avait systématiquement traduit « citizenship » par « citoyenneté ». Alors on se retrouvait avec des lois sur la citoyenneté, vous voyez, qui évidemment pour un public français paraissait complètement absurde. Bon, mais on pouvait pas non plus traduire systématiquement par nationalité, parce que voilà. Donc là, on voit bien que le langage, c'est aussi le produit d'une histoire. Donc effectivement, dans le cas français, il y a eu une distinction assez nette entre les deux. Au départ, le terme nationalité, il est tardif dans le vocabulaire français. On ne raisonne que par rapport aux citoyens. Hein. Et la distinction, bien, le citoyen, la citoyenneté, je dirais, dans le cas français, parce que quand on lit Rousseau, le contrat social, on voit déjà qu'il établit une différence entre la conception qu'il donne de la citoyenneté et celle qui existait en Angleterre. Dans la logique anglo-saxonne, la citoyenneté, c'est avoir des droits. Alors dans la logique française, c'est avoir des droits politiques, c'est le sens fort de la citoyenneté, hein, j'entends, c'est la participation à la vie politique, d'un pays. Hein. Et c'est sur cette base-là que il y a eu après tout un débat justement pour distinguer les deux, parce que vous aviez par exemple les femmes pendant longtemps avaient la nationalité sans avoir la citoyenneté politique. C'était le cas aussi pour les indigènes dans l'empire colonial, les Algériens, etc. Donc il y a eu cette distinction qui en France aujourd'hui, ça s'atonie, mais en France, était lié, je dirais, au fait que la citoyenneté et la connotation, c'est la participation à l'élaboration des lois, à la vie de la nation, alors que la nationalité, c'est bénéficier d'une protection. Voilà la distinction qui est faite généralement, sans entrer dans les détails et dans les redéfinitions actuelles.
Oui, moi, je voudrais revenir sur les deux moments chronologiques que je confirme dans ma lecture des manuels du côté des manuels de lecture. Parce que le point, moi, qui me paraît très important et dont j'avais pas pris conscience avant de passer beaucoup d'heures, c'est que l'apparition des manuels d'histoire dans le primaire est finalement assez tardive. Finalement, ils sont pas dans les classes avant les années 1900, et dans les années 1900, ils sont en grande minorité, et le livre d'histoire est dans le livre de lecture. Et dans les livres de lecture, curieusement, il y a pratiquement aucune fiction. C'est-à-dire que les seuls textes de récits qui existent dans les livres de lecture de l'école primaire jusqu'à la guerre de 14, sauf quelques petites fables ou apologues pour l'éducation des vertus de l'écolier sur Jean doit travailler ou du gourmand qui a été puni, qui sont des fictions. Le reste, ce n'est uniquement le récit, c'est le récit historique. Et là, il me semble que les IO de 23 montrent le bouleversement, moi je suis bien d'accord, qui est à la fois sur la remise en cause de l'idée que la seule récit serait le récit nation, au moment aussi des centres d'intérêt de l'enfant, et qui fait que le récit historique n'est plus que dans les livres d'histoire, et les livres de lecture de la vie quotidienne sont tous fondés cette fois sur la question de la langue française, puisque tous les récits qui apparaissent à ce moment-là, récits et descriptions tirés de récits ou poésie, sont tous signés par des auteurs du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement dont j'arrive pas bien à mesurer les effets, comme si la formation de la communauté de langue passait par la familiarité quotidienne avec un patrimoine, avec le patrimoine, avec des textes du patrimoine reconnus, en tout cas constitués. Il y a le nombre d'heures d'histoire qui change. Si j'ai bonne mémoire, la loi de 87, c'est 2 leçons d'histoire par semaine.
Oui.
Donc les statistiques de François Didier fonctionnent absolument pas. Parce que si on compte les 2 leçons par semaine plus les livres de lecture, on est effectivement
plus
le livre de lecture, voilà, de la lecture quotidienne, on est effectivement dans une imprégnation de textes à référence historique qui est sans commune mesure avec ce qu'il sera au moment de la montée du pacifisme. Et là, on a beaucoup de témoignages, en particulier d'institutrices. Je me souviens de celui de, je ne sais plus, dans les lieux de mémoire, peut-être que c'est Marianne dans la République, je ne trouve plus le nom de l'historien du 19e. Hein? Oui, mais dans Ego Histoire, qui explique que beaucoup d'institutrices d'école maternelle se réjouissaient d'être en école maternelle Gulon. Parce qu'on n'avait pas Agulon. Voilà, c'est Agulon qui témoigne de ça, de sa mère disant qu'une des choses qui était horrible pour les instituteurs, c'était de devoir enseigner l'histoire.
Oui, parce que oui, il y avait ce côté de savoir érudit. Voilà,
c'était terrible. Le savoir des guerres, des conflits et des morts.
Canossa,
voilà.
On tous parlait. Ça n'appelle pas réponse, évidemment. Simplement, je voudrais en profiter pour dire que il y a aussi des travaux à mener. Ça a été un peu initié par Yves Golupeau, un peu par moi dans la thèse, sur la différenciation qui s'opère avec 14 entre l'enseignement catholique et l'enseignement, disons, laïque. Et là, quel rôle ça a joué sur les récits dans les manuels et les leçons de français, je sais pas. Voilà. Donc là, est-ce que là ça a joué, comment ça a pu jouer dans cet enseignement qui concerne quand même un Français sur 5 hein, à cette époque-là. Ce qu'on voit bien, c'est que dans l'enseignement catholique, il n'y a pas de rupture de sacralité pour la nation. Ça reste un enseignement patriotique, sans aucune rupture de solution de continuité plutôt. Et alors que qu'est-ce qui se passe du côté de l'enseignement de la langue? Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on l'enseignait différemment? Est-ce qu'on a des là, je ne le sais pas. Mais c'est un beau sujet, je trouve.
Et au niveau des usages, des manuels, est-ce que des recherches ont été faites? Oui. Parce que justement, ces manuels, comment est-ce qu'ils étaient utilisés en classe? Est-ce qu'ils étaient lus oralement? Est-ce qu'ils étaient recopiés?
Oui, alors je vais quitter le terrain des manuels pour d'abord vous remercier pour ces deux exposés d'historiens qui m'ont appris beaucoup de choses. Et très brièvement, une question à chacun des deux, pour être juste, à Gérard Noiriel. Vous avez évoqué au début de votre exposé 3 pôles de modèle national qui étaient la France, l'Allemagne et les États-Unis, si je me souviens bien, et je ne suis pas sûr d'avoir entendu parler des États-Unis. Donc je serais curieux de savoir ce que vous proposez pour définir le modèle national américain par rapport à la France et à l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même de plus en plus un modèle hégémonique, j'allais presque dire. Olivier Loub, en fait, j'aurais 2 questions pour vous, rapidement. La première porte sur votre hypothèse séduisante, je trouve, du double corps du roi transporté à la nation. Parce que la distinction entre un corps physique et un corps mystique ou symbolique pourrait aussi permettre de penser le rapport de la France à l'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait pas avancer l'hypothèse que l'Europe représente de plus en plus le corps physique et la France restant dans le corps mystique avec un décalage de plus en plus malaisé entre les deux corps, effectivement, le grand écart. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tirer effectivement de cette hypothèse du double corps aujourd'hui? L'autre question porte sur votre conclusion qui ouvre des perspectives, je trouve, si intéressantes concernant le fait que nous sommes une génération pour la plupart qui avons été élevés dans la France antifasciste, qui donnait une identité assez confortable, il faut le dire, que depuis nous avons vécu la repentance, la découverte que la France n'était pas totalement résistante par-delà De Gaulle et que finalement il y avait une sorte de banalité de la collaboration pour beaucoup de Français à cette époque, ou de la neutralité entre les deux camps pour au mieux. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, effectivement, nous sommes plutôt dans un sens de l'histoire antitotalitaire, ce qui change totalement les choses et qui, moi, me pose un problème personnellement par rapport à notre génération d'enseignants, d'intellectuels, effectivement, qui avons été à une période de l'histoire où, antifascistes, nous n'étions pas forcément antitotalitaires, parce que j'ai un passé politique que j'assume, mais qui, parfois, aujourd'hui, me met mal à l'aise dans cette double appartenance qui fait que nous étions confortablement antifascistes, je le suis toujours. Par contre, je ne suis plus aussi confortablement pro-totalitaire que j'ai pu l'être dans ma jeunesse. Donc ça me pose une question effectivement de génération sur l'identité intellectuelle de la France aujourd'hui dans ce double héritage antifasciste et antitotalitaire sur lequel on a un rapport plus ou moins aisé. L'hypothèse que j'avancerai, c'est peut-être qu'il y a un rapport avec l'identité nationale, effectivement, dans un rapport au passé. Je ne veux pas culpabiliser une génération entière, mais moi, ça me pose un problème personnel qui est effectivement comment assumer ce passé qui, aujourd'hui, quelque part, est pris à contre-pied du courant de l'histoire mondialisée aujourd'hui. Comment assumer une identité intellectuelle de la France aujourd'hui qui, pendant longtemps, a été fortement, pour dire les choses clairement, du côté des pays communistes, des pays de l'Est, du bloc de l'Est et soviétique, et qui aujourd'hui essaye de reprendre le train de l'histoire dans un sens antitotalitaire, ce qui n'est pas facile toujours. D'accord. Voilà.
Merci. Oui, enfin, je connais très, très mal le modèle américain, c'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais simplement, disons, on pourrait dire que c'est les luttes d'indépendance des États-Unis, c'est le point de départ du modèle colonial, enfin anticolonial, je dirais. Donc c'est aussi pour ça que cette question-là, encore aujourd'hui, ce qu'on appelle le post-colonialisme, enfin, de Marx, est extrêmement important aux États-Unis. Donc c'est l'émancipation la question de la nation est conçue comme l'émancipation d'une colonie par rapport à la domination européenne, mais en même temps aux États-Unis se greffe là-dessus la dimension raciale, hein, la discrimination raciale qui est constitutive au départ de la nation américaine. Donc, les États-Unis auront beaucoup de mal à se départir par la suite. Bon. Je profite simplement de l'occasion, parce que je vois que le temps passe et que le débat va bientôt se terminer, pour rebondir aussi sur ce que Laurence avait dit tout à l'heure sur la question de la sociologie à l'école, ou la place de la sociologie, ou la petite place qu'on pourrait faire à un enseignement à caractère sociologique au sein même de l'enseignement d'histoire. Je pense que c'est pas forcément des choses très compliquées. Pour moi, ça relève plus de l'ordre peut-être du réflexe que de la multitude de références savantes. Mais si on prend par rapport à la question nationale, je pense qu'on peut aborder la question de la nationalité comme justement par rapport à cette idée d'appartenance à un État, et de montrer que l'appartenance à l'État se fait au moment même où les individus, les citoyens, sont intégrés dans un grand nombre d'autres groupes, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sociologie la différenciation des fonctions, la différenciation des appartenances. C'est ça qui caractérise, à mon avis, le national. C'est-à-dire que c'est cette intégration dans la communauté nationale que fait la Troisième République, ça se fait en même temps que d'autres formes d'intégration sociale se produisent, notamment l'intégration au sein du salariat, au sein des groupes socio-professionnels. Et c'est ça qui va rendre possible l'antagonisme classe ou nation. Hein. Et donc on a une pluralité d'appartenance, donc une pluralité d'identification possible. C'est ça le modèle de la nation enfin je parle là dans les, surtout dans les États démocratiques, c'est justement qu'il n'est pas imposé, ce n'est pas le seul, c'est ce que Durkheim explique quand il explique le passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique. Ça veut dire que voilà, on est dans des sociétés différenciées. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que moi, je parle de l'identité nationale comme une identité latente. C'est-à-dire qu'on peut activer, hein, qui peut rester à l'arrière-plan constamment, mais qui peut être activé dans certaines circonstances, comme les guerres, ou les touristes, il suffit d'aller dans un autre pays, on est désigné comme, donc on va se sentir, etc. Et c'est là le lien avec la politique. Parce que les politiques, un certain camp politique, en tout cas, a intérêt à faire en sorte que de réactiver cette dimension-là, en nous faisant croire qu'elle serait comme ça, que les gens se promèneraient 24 heures sur 24 avec en bandoulière leur identité nationale. Non. Donc là, il y a, à partir d'éléments simples, on peut montrer des choses qui sont extrêmement importantes et qui nous viennent de la sociologie, qui à la fois éviteront de réifier la nation et puis qui éviteront aussi de le refouler ou de considérer que c'est quelque chose dont on ne peut pas parler, etc. Donc c'est cette notion de différenciation des appartenances, et c'est ce qui fait que, pourquoi ça a échoué ce débat, le pseudo-débat de M. Besson, etc. C'est justement, c'est qu'aujourd'hui, on appartient à des univers qui sont tellement différenciés, hein. La plupart des sphères d'activité ne sont plus nationales. Vous prenez la musique, vous prenez l'économie, vous prenez la vie intellectuelle, etc., sauf l'espace politique. Donc là, effectivement, on a un espace politique qui reste fondamentalement autour de l'État-nation, des hommes politiques, des femmes politiques qui, eux, dépendent de citoyens nationaux et qui ont donc essayé d'imposer cette réflexion-là alors que les individus sont eux-mêmes complètement dans... Donc ça crée un hiatus qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'imposer un débat là-dessus qu'au lendemain de la guerre, évidemment, où là, les gens avaient en eux-mêmes toutes ces souffrances de la guerre qui étaient déterminées directement par les conflits nationaux. Donc on a là des éléments, je crois, assez simples qui peuvent quand même permettre d'éclairer des élèves par rapport à ces enjeux de la nation.
Oui, alors pour les deux questions qui m'ont été posées, d'abord oui, effectivement, je pense que pour le corps physique à l'heure actuelle, notre nation, disons, devient européenne. Alors, c'est l'Europe, mais c'est pas fait. Et c'est une des premières tensions. La deuxième, c'est que, alors, comme corps mystique, je veux dire, mais au sens de Kantorowicz, c'est-à-dire le sacré du politique, ce qui fait qu'on accorde la légitimité à un groupe de référence, ou alors c'était à une entité de référence. Je préfère ça parce que roi et nation sont des entités dans ce cas-là de référence. Là aussi entre plusieurs chaises. Mm-hmm. On aimerait tous, je crois ici, que ça soit par exemple la République, qu'on puisse dire voilà, la nation républicaine, c'est notre corps mystique de référence. Resterait à s'entendre sur ce que ça veut dire, les valeurs républicaines. Ça prend du temps. Ou la démocratie, par exemple aussi, et pourquoi pas, ça fait quand même une belle mystique, la démocratie. Hein. Sauf que si on rajoute libéral, ça devient plus compliqué tout de suite, et qu'on va être un peu gêné. Quoi qu'il en soit, on voit bien les mutations du corps physique, me semble-t-il. Celle du corps mystique, on est dans cette différenciation d'identité de référence dont parlait Gérard Noiriel. Pour la culpabilité qu'on pourrait nourrir quant à ces appartenances passées prises dans ce tournant, que je crois être fondamental de passage de lecture, vraiment, je crois qu'il faut avoir simplement un réflexe d'historien, il faut historiciser à la fois les mots que l'on emploie et les parcours qu'on a pu avoir, enfin tous d'une façon ou d'une autre. Je vais prendre deux exemples de mots qui sont dans les programmes ou qui n'y sont plus. Le mot de totalitarisme devrait renvoyer à une étude forte et solide de l'Italie fasciste. Mais comme elle est fasciste, c'est compliqué, donc on préfère se centrer sur le totalitarisme brun ou rouge. C'est un problème quand même. Politique, historique et même étymologique. Le premier à employer le terme de totalitarisme, c'est Mussolini. On l'a oublié. Le mot de résistentialisme, c'est une horreur forgée par l'extrême droite au lendemain de la guerre. C'est un mot qui... C'est-à-dire, employer le terme de résistentialisme à l'heure actuelle sans le référer dans son jus, dans ce que mon maître Pierre Laborie appelle les codes culturels d'une époque, enfin bon, c'est quand même le résistance. On ne devrait pas employer le mot de résistentialisme dans un programme si on l'historicise pas, si on se demande pas d'où ça sort. Et combien ça a été une arme intellectuelle de destruction qui se voulait massive des idées issues de la résistance à ce moment-là. Bon. on voit bien le tournant qui a été pris. On peut donc avoir des réflexes, je veux dire, de relecture. Et c'est pour ça que ce que disait Gérard Noël tout à l'heure, ça me paraît extrêmement important pour, d'aller de voir comment ça fonctionne, comment fonctionnait la vie des mots dans ce cas-là, et de voir comment ils ont été utilisés, quels usages politiques ont pu être faits à un moment ou à un autre des mots, c'est extrêmement intéressant. Puis d'autre part, malgré tout, pourquoi il n'y a pas forcément de contradiction dans le temps entre antitotalitarisme et antifasciste? Certains antifascistes ont été les premiers à dénoncer les fonctionnements totalitaires. On peut penser à Victor Serge pour des tas de raisons, hein, par exemple. C'est dans le camp aussi trotskiste qu'on a pu avoir les premières lectures du fonctionnement dans un sens totalitaire. Donc, je ne crois pas qu'il y en aurait. Mais cette question de la culpabilité est extrêmement intéressante parce que là aussi, elle mérite histoire. Je finis avec ça, avec mes instituteurs. Moi, j'ai travaillé sur des générations d'instituteurs qui ont traversé une double culpabilité. Avoir été trop patriote avant 14, trop pacifiste avant 40. Et ça, c'est un bel objet d'histoire, la culpabilité. Donc, ma réponse est, historicisons nos culpabilités.